Vacarme, avec les CMS vaudois et leurs équipes de proximité d'aide et de soins à domicile, avassad.ch.
Non, on a l'impression que les gens, ils s'intéressent pas trop à ce qui se passe dans la forêt. Hein. Et puis, quand tu arrives sur des sujets sensibles comme ça, ben, on voit que les gens se mobilisent. Hein. Aujourd'hui, en Suisse, t'as tout qu'interdit. Donc, les gens, ils en ont ras-le-bol. Et si vous allez vous promener dans la forêt, là, c'est vrai que c'est un paradis sur Terre. Et quand on... Pour moi, c'est cette interdiction que les gens, ça les a frustrés.
Place pour la nature sauvage.
Laurence Di Félix, Véronique Marty.
Quatrième jour de reportage autour de la place de la nature sauvage dans notre monde, dans notre vie, dans notre coin de pays. En Suisse, dès qu'on quitte les montagnes, la nature sauvage se fait rare. Le béton se répand sur le territoire et recouvre 1 mètre carré par seconde. Pour protéger la nature, certains rêvent de lui créer des sanctuaires sous la forme de parcs naturels. Un projet est en cours dans le Jorat, cette zone vallonnée et boisée au nord-est de Lausanne. Un projet de parc naturel périurbain qui s'est considérablement réduit depuis le début des discussions en 2015 pour cause d'opposition successive des communes concernées. Il faut dire que le projet prévoit une zone dite centrale où la nature serait en libre évolution et où l'accès ne serait autorisé que sur les chemins balisés. Une opportunité pour les habitants de vivre l'expérience d'une forêt naturelle, disent les uns. Un catalogue d'interdictions rétorque les autres. Entre les forestiers, les promeneurs, les promoteurs du parc, chacun défend sa vision de la nature et le partage de son territoire. Rendez-vous tout d'abord avec Philippe Magnonat, garde forestier, et Natacha Litzisdorf, municipale lausannoise en charge du département du logement, de l'environnement et de l'agriculture. Voici « Faut-il parquer la forêt ?» C'est un reportage de Cécile Guérin. Il est réalisé par Rodolphe Beauchaud.
Alors.
Regarde, ici, là où il y a le... Où il y a le G majuscule. Alors, le périmètre, il est constitué d'une zone centrale qui fait 440 hectares, qui est découpée par une route qui est ouverte à la circulation. Et puis il y a une zone qu'on appelle de transition, qui fait une surface à peu près équivalente, et qui est une zone dans laquelle les activités sont vouées à l'accueil du public et à la biodiversité. Dans ce périmètre de zone de transition, les activités forestières sont autorisées.
Là, dans la zone bleue, la zone centrale, les 440 hectares, là, il n'y a pas d'exploitation forestière.
Alors, il n'y a pas d'exploitation forestière, sauf si, suite à des catastrophes naturelles, on serait obligé d'intervenir pour réouvrir des chemins qui seraient fermés. Quoi.
Donc là, on n'est pas très loin du Chalet à Gobé. On est à combien?
Là, on est à 600 mètres à peu près, à vol d'oiseau du Chalet à Gobé.
Et il a un petit peu changé, ce parc?
Oui, parce que c'est un projet participatif. Certaines communes avaient commencé l'aventure du parc avec nous, la ville de Lausanne. Elles ont décidé, avec leur exécutif et certaines avec leur législatif, de ne pas continuer l'aventure du parc naturel périurbain, ce qu'on ne peut que respecter. La démocratie fait son œuvre. Nous, nous sommes déterminés et passionnés pour continuer cette belle aventure, parce que c'est une réelle opportunité en termes économiques, sociaux et environnementaux. On a d'autres communes qui auraient bien aimé participer au parc tel que défini au départ, mais par la décision de certaines communes qui ont dit non, pour des raisons spatiales justement, elles n'ont pas pu continuer. Donc nous, on les accueille très volontiers parce que dans le parc, c'est pas seulement la mise en réserve forestière d'une zone centrale, c'est surtout des projets qui vont pouvoir naître, qui ont des impacts soit sur l'éducation, la sensibilisation, soit sur la valorisation de la filière bois. Bref, toute une série de projets dont on ne veut pas priver les communes qui ont envie de travailler avec nous.
On va s'y promener ?
Mais très volontiers.
Et là, on est au bord du Tal, hein.
Petite rivière.
La rivière, ouais, qui va au chalet à Gobé.
Il y a déjà un tronc dans la rivière, ça sera entre guillemets comme ça, quand tu auras des troncs morts, ça restera...
Bien sûr, hein. Si ça ne risque pas de créer d'embâcle pour le ruisseau lors des crues, on va laisser. Hein. Et il y a des castors dans cette rivière, donc ils vont se faire un plaisir de ranger les bouts de bois qui s'y trouvent.
C'est tout calme.
Alors ça, c'est un bel exemple de ce qui va se produire dans le reste de la zone, puisque dans cette zone ici, nous ne sommes pas intervenus depuis passé 30 ans. On n'a fait aucune intervention, on a laissé les arbres tomber naturellement. Et puis les années passant, le bois se dégrade gentiment. Quoi.
On restera sur les chemins parce que ça sera carrément inextricable en fait.
Absolument, et puis il y aura probablement des événements naturels qui vont précipiter les choses par endroits. Donc on peut imaginer des coups de vent, des tempêtes de neige qui renversent le peuplement. Et puis là, le processus naturel va se remettre en route. Donc pendant une cinquantaine d'années, il n'y aura pratiquement rien. Puis après, petit à petit, la forêt va repousser naturellement.
Et si cet arbre-là, cet épicéa, il tombe sur le chemin, on fait comment?
Alors là, on sera obligé d'intervenir pour assurer la sécurité du public, justement.
C'est pas évident, en tant que forestier, de laisser une forêt fermée. C'est tout ce que vous ne faites pas.
Oui, bien sûr, mais je pense que c'est une chance pour notre génération, puis pour les générations suivantes, d'anticiper et puis de mettre à l'abri une portion de forêt et puis de la laisser évoluer naturellement par rapport à la pression qu'il va y avoir sur le reste des forêts en général, hein, de par l'augmentation de la population, etc.
Et cet arbre-là, il est tout moussu sur toute une partie, c'est étonnant.
Ça se ferme, justement, c'est assez humide.
Ça se ferme déjà, là.
C'est un signe d'humidité.
Mais ça sera plus fermé que ça, à terme?
Peut-être pas forcément dans cette forêt, parce que c'est déjà une forêt adulte, mais les forêts qui sont jeunes, qui sont actuellement aérées, si on n'intervient plus pendant 30 ans dedans, inévitablement, ça va s'assombrir, ça se referme.
On distingue, on va dire, à tous les étages, que du vert, en fait, que de la chlorophylle.
Oui, c'est ça. C'est beau, non?
Ça vous plaît?
Beaucoup, oui.
En tant que forestier, j'imagine, ça a beaucoup discuté quand même. Vous avez discuté avec vos copains du Jura, dites-moi tout.
Oui, évidemment, bien sûr.
Pourquoi cette différence de perception vraiment très marquée?
Mais je ne sais pas si c'est une différence de perception. Nous, on est tous formés en fait, pour couper du bois à la base dans nos écoles forestières. Et puis inévitablement, on doit switcher dans le cerveau quand on nous dit on va faire un parc périurbain. Il faut changer sa manière d'aborder les choses. Quoi. Alors pour nous, c'est peut-être plus facile à Lausanne parce qu'on est vraiment partie prenante et puis au cœur du projet. Et puis les collègues juratois qui sont un peu plus, je dirais, en arrière géographiquement, ils ont peut-être moins été influencés par ça.
Proche de gens qui ont un chien.
Moi, je viens très souvent ici.
Oui, oui, nous aussi.
Avec vos chiens?
Oui.
Pratiquement tous les jours.
Tous les jours?
Tous les jours, oui, oui.
Donc, quasiment tous les jours pendant la canicule.
Ce qui m'intéresse, c'est qu'il va y avoir ici un parc naturel du Jura. Vous avez entendu parler de ce parc?
Non, je ne dis rien.
Ça voudra dire qu'il y aura une partie de la forêt ici laissée sans être exploitée du tout par les forestiers.
Ah, non, laisse... il y a déjà des endroits. Hein. Il y a des endroits où ils laissent la nature se faire de par elle-même. C'est parfait, ça.
Il faudra rester sur les chemins et pas lâcher votre chien.
Ça me dérange pas, le mien. De toute façon, il n'est pas nerveux, alors il reste à côté de moi. Tout bénef.
Et vous en pensez quoi, monsieur?
Ben, écoutez, je pense que de toute façon, la forêt, elle doit être entretenue.
Vous avez vu déjà l'état qu'il y a. Oui. Quand vous allez plus loin, vous avez au moins 300 mètres de troncs, mais comme ça, qui sont coupés. Ouais. Quand vous allez vraiment plus loin... Des fois, je fais une heure et demie, deux heures de marche. Vous les voyez plus loin.
C'est plutôt un écosystème, c'est ça?
Voilà. C'est ça, ça sera sur une zone qui se fera 440 hectares. C'est une grosse...
Ah oui.
C'est quand même assez gros.
Mais c'est ici.
Ici, ouais.
Ah oui, mais c'est grand le chalet Tagoubé. Hein. C'est justement pour toutes les petites bêtes qu'il y a dans la forêt, qu'elles fassent... voilà, elles sont dans cet état de bois. Parce qu'avant, c'était toujours tout propre. Quand vous prenez le bois de la chapelle, hein, ça s'appelle comme ça, épalinge. Alors là, il n'y a pas bout de bois qui traîne par terre, c'est magnifique. Hein. Mais c'est vrai que c'est presque trop propre, la chapelle. Il n'y a rien qui traîne.
est sur la commune de Corcelles-le-Jorat, ici, Marc Rode. Et puis à droite, c'est...
C'est la commune de Villars-Tiercelin, Jorat-Monture. Okay.
Le bois du Jorat, c'est quoi? C'est un immense massif forestier sur le plateau suisse, déjà?
Alors, c'est un immense massif, c'est clair. C'est un des plus gros massifs d'un seul tenon sur le plateau. Alors, il fait plus de 4000 hectares. Mais je pense qu'avant tout, c'est pas seulement un massif, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, c'est le Jorat, c'est aussi une mentalité des communes agricoles, des habitants qui se sentent bien d'une région. Alors, ils dépendaient énormément de la forêt. Jusqu'à une commune comme Corcelles-le-Jorat, jusqu'à 6-7 ans en arrière, faisait encore du bénéfice avec sa forêt. Pour vous dire, ils ont été très, très proches. C'était des civiculteurs dans l'âme. Moi, ça fait 25 ans que je travaille ici. Il y a toujours eu un esprit forestier. En premier lieu, et après il y a le monde agricole qui vient, c'est des gens qui ont vécu avec la forêt.
Vous, je viens avec vous, vous êtes garde forestier pour me montrer un endroit de forêt. Vous avez choisi ce bout de forêt où on va rentrer. Pourquoi ce bout-là?
C'est un secteur qu'on a déjà mis en réserve depuis près de 30 ans. Il était officialisé, ça fait 2 ans. On a fait des entretiens qui favorisent la biodiversité uniquement. Sans parler de parc ou quoi que ce soit, les propriétaires avaient déjà décidé que cette zone serait laissée comme ça.
Les gens ne vont pas se promener dans cette zone-là, pas spécialement?
Alors avant qu'on crée ce qu'on appelle un îlot de sénescence ici qui fait 9 hectares, je pense qu'il n'y avait personne qui savait qu'il y avait une zone naturelle comme ça ici. Écoutez, je pense que la nature, oui, on peut rentrer, on peut aller, vous pouvez aller où vous voulez, hein, il n'y a aucune interdiction. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune interdiction. Mais il y a uniquement les vrais amoureux qui viennent ici, puis tranquilles, amoureux de la nature, on s'entend.
On passe au travers. Hop. On arrive.
Vous arrivez là, exactement ?
Ouais. Ouais.
On a récolté uniquement les arbres qui auraient pu poser des problèmes, c'est-à-dire les épicéas ou qui auraient pu être bostrichés. Il y a simplement une fonction, une seule fonction de la forêt qui a été enlevée sur le secteur. C'est-à-dire, c'est la fonction d'exploitation des bois. Les autres fonctions, qui sont la fonction d'accueil, la fonction de protection et la fonction biologique, elles restent. Donc, il y a 3 autres fonctions qui sont là, qui sont importantes, qui permettent aux citoyens, aux gens de tout le monde de venir prélever des champignons, de venir se balader, de venir observer la nature. Ça reste. Ce côté-là, on a enlevé juste une fonction.
Oui, Daniel, on est là.
Donc c'est la réserve de...
Îlot de sénescence
de Corcelles-le-Jorat, dont vous êtes le syndic, voilà. Daniel Ruche. Et aussi, votre autre métier, c'est exploitant forestier.
Entrepreneur forestier, la plus grande entreprise forestière de Suisse romande, avec 40 collaborateurs.
J'ai vu tout à l'heure votre petit-fils là, qui est quelques mois... Vous allez venir vous promener avec lui, vous allez lui raconter quoi quand il va rentrer dans sa première forêt?
Eh ben, je lui dirai, ben voilà, tu vois, là, c'est moi qui avais coupé, c'est moi qui avais planté. Aujourd'hui, on va faire des coupes de bois où on a planté il y a 40 ans arrière. Comme dit la poésie de la forêt, c'est le bois de ta table, c'est le bois de ton lit, c'est le bois de ton cercueil. Pour en faire le tour, quoi. Ce qui est dommage aujourd'hui par rapport à quand on parle de créer un parc périurbain et tout, c'est difficile à défendre d'être contre le parc, parce que le marché du bois, on est dans une phase, il y a quand même 10 à 15 ans qu'on coupe du bois, puis c'est toujours le cirque pour le vendre. On a de la peine à trouver des clients. Alors quand on prend la raison de ne pas faire de parc parce qu'on veut couper du bois, puis que chaque fois qu'on coupe du bois, en général, on perd un peu d'argent. Ceux qui sont pro-parc, ils ont tous les bons arguments pour vendre le parc.
Moi, je vois un parc. Je vois l'utilité d'un parc.
Vous, en tant que garde forestier, vous êtes d'accord pour l'utilité d'un parc?
Alors, en tant que garde forestier ou en tant que citoyen, tout simplement issu du Jura, je suis pour un parc, mais peut-être différemment que ce qui nous a été proposé. Il a été fait par rapport à une ordonnance fédérale, et puis pour moi, ça, il aurait dû être fait par rapport à ce que nous, on attend ici, dans la région. Pas par rapport à ce que la Confédération attend.
Ce qui gêne, c'est qu'on interdise un endroit d'agir dans un bout de forêt.
On a beaucoup d'interdictions en Suisse. Et là, pour protéger quelque chose, pour protéger justement où des gens vont se promener, où des gens ont des habitudes, on enlève de plus en plus de liberté aux gens. Et puis là, d'enlever une liberté, ça a vraiment freiné les gens du Jura. Ce côté-là, c'était hyper important. On a touché dans l'émotionnel, là.
Quand on voit les résultats dans les conseils, on n'aurait pas pensé que ça soit refusé un tel pourcentage. Hein.
Vous ne pensiez pas ça, vous?
Non, parce que Ben justement, on a l'impression que les gens, ils s'intéressent pas trop à ce qui se passe dans la forêt. Hein. Et puis, quand tu arrives sur des sujets sensibles comme ça, ben on voit que les gens se mobilisent. Hein.
Qu'est-ce qui était sensible, à votre avis?
Ah, moi, c'est l'interdiction. Aujourd'hui, en Suisse, t'as tout qu'interdit. Donc, les gens, ils en ont ras-le-bol.
Donc, ils ont besoin de sauvages, un peu de liberté, ben voilà. Pour eux. C'est pas seulement pour les autres animaux sauvages.
Moi, je pense. Vous allez ici, vous allez vous prenez la forêt, vous allez en ville, t'as les voitures, tu peux pas faire bouger comme tu veux. Là, c'est vrai que c'est un paradis sur terre. Et quand on, pour moi, c'est cette interdiction que les gens, ça les a frustrés.
Détracteurs, moi j'ai encore, après 3 ans, pas compris qu'est-ce qui les motive à ne pas participer à ce parc. Franchement, je ne comprends pas. D'un point de vue économique, je ne comprends pas. D'un point de vue social, je ne comprends pas. D'un point de vue environnemental, mais ça les intéresse moins, je ne comprends pas non plus.
Donc les usagers, Natacha Littistorff, vous les avez convaincus, enfin rassurés sur le fait qu'ils pourraient toujours aller sur les chemins existants aujourd'hui.
On l'a vu lors de l'atelier qu'on a fait tout dernièrement, où on a présenté de manière très concrète la carte du nouveau périmètre avec sa zone de transition et sa zone centrale, avec tous les cheminements. On a détaillé usager par usager ce qu'ils allaient pouvoir faire et ne plus pouvoir faire. Et encore une fois, à part les champignonneurs du dimanche, qui vont plus pouvoir aller accueillir dans la zone centrale leurs champignons, mais toujours dans la zone de transition. À part ceux-ci, tout le monde pourra faire comme il fait maintenant.
Ceux qui font de la course d'orientation, ils ne suivent pas les chemins.
Ils quittent les chemins. Alors justement, là, dans le périmètre du parc, ils n'ont plus le droit de quitter les chemins.
Mais dans la négociation, parce que tout est affaire de négociation, on leur permettra aussi, pour les entraînements, de faire des exceptions. Donc c'est aussi des choses qu'on négocie en fonction...
Ça se discute, cette place du sauvage.
Ça se discute. La place du sauvage se discute. C'est une belle phrase. Pour être précis, les zones actuellement interdites à la pratique de la course d'orientation dans la zone de transition seront ouvertes pour les entraînements et les courses régionales.
Par contre, ils ne seront pas... autorisé dans la zone centrale.
Non, zone centrale, personne n'est autorisé.
Vous avez les chaussures de course?
Oui, on va faire un peu de course, oui. Régulièrement, oui, on va assez souvent. C'est un endroit qu'on aime beaucoup.
Et vous savez qu'il va y avoir un parc naturel qui va se créer ici, avec une zone où il faudra rester sur les chemins?
Oui. Oui, oui, il y a déjà eu pas mal de... Il y a des camarades cavaliers qui se sont un petit peu insurgés. Bon, moi, je pense que c'est bien de préserver ce parc.
À part, après, si c'est trop canalisé, c'est vrai que c'est pas très intéressant. S'il y a le côté piéton, le côté cavalier, le côté cycliste. Ce qu'on a maintenant, puis on arrive à vivre en bon voisinage, donc il n'y a pas vraiment besoin de trop structurer tout ça, je trouve. Mais ça va pas beaucoup changer, finalement, non. Puis laisser peut-être des endroits plus sauvages, pourquoi pas.
Moi, ma question dans ma série Vacarme, c'est quelle place pour le sauvage? Est-ce que vous avez l'impression que c'est un petit endroit sauvage? Même si on est proche de la ville, tout est quand même assez cadré.
C'est pas si sauvage que ça, parce que est-ce qu'il y a encore des endroits sauvages sur cette terre? Mais oui, le côté sauvage, il faut le préserver, oui. Parce que ça préserve aussi notre petit côté sauvage à nous aussi. Donc c'est bien, le petit côté révolte, c'est bien de le conserver, je trouve.
De tabac, c'est bon, magnifique.
Normalement, il aurait cueilli, mais là, on a un peu.
Bah oui, parce que là.
ouais.
C'est à vous, ça?
Oui.
André Jordan, je vous retrouve sur la commune de Carouge.
Jorat-Mézières, village de Carouge. Voilà.
Jorat-Mézières, village de Carouge. André Jordan, vous êtes descendu de votre tracteur, vous êtes agriculteur. Et puis, je viens vous voir parce que vous avez. On va avancer jusqu'à la forêt, là. Vous avez créé une association, Parc Pam en Jura. Voilà. Ah, vous n'avez pas envie d'un parc dans le Jura?
Si, mais pas comme ça. Voilà, je crois que c'est surtout ça. C'est vrai que, bah, disons qu'en plus, j'ai des fonds par une association, les parcours pour les chevaux. Et puis, on a déjà pas trop de parcours, il y a beaucoup de chevaux. Et puis, il faut qu'ils aient de la place pour s'ébattre. Dans la nature. Dans l'association, il y a les gens qui défendent les parcours à vélo, les gens qui vont à pied, les gens qui veulent aller aux champignons, les gens qui veulent voir la nature aussi d'une manière différente. Ça, c'est autre chose. Mais au départ, j'étais dans cette association surtout pour ces parcours équestres.
Et comment ça se négocie alors? Vous êtes en train de négocier un peu où est-ce que sur ce territoire vous pourrez passer?
Alors, on nous dit que oui, après, on veut des garanties. C'est ça, à long terme. Parce que c'est vrai qu'on a vu qu'à Zurich, il y avait des chemins équestres qui allaient bien. Et puis, au bout de 10 ans, chaque fois qu'ils revoient la charte ou qu'ils rediscutent, ben, il y a des chemins qui sont abandonnés, qui n'existent plus.
Parce qu'à Zurich, il y a un parc, c'est le seul en Suisse, voilà. Un autre parc périurbain, voilà. Qui serait un peu le même style qu'il y a ici.
J'espère pas.
Vous le connaissez, vous êtes allé?
Ben oui, pour quand même savoir de quoi on parle, on y était pour voir un peu comme c'était. Et puis c'est vrai qu'il y a eu pas mal de problèmes. Il y a même un petit centre équestre qui a dû fermer parce que les gens sont partis.
Parce que les chemins se fermaient, qu'est-ce qui se passe?
Alors les chemins se ferment et puis en plus les initiateurs du parc ferment des chemins.
Vous avez été finalement discuté avec les initiateurs du parc?
Ils ont convoqué tous les utilisateurs en 2 séances ces derniers temps, et puis on a discuté avec eux, on a dit ce qu'on pensait. Il semble qu'on ait été entendu, mais après, ben, il faut aussi que l'Office fédéral suive ça et puis que tout le monde soit d'accord. Ils nous ont garanti que tous les chemins qui figuraient sur la carte aux 25 000, tous les chemins avec un trait plein seraient conservés. Après, on attend des garanties.
Vous êtes un peu sceptique.
Un petit peu. Ben. Il y a une ordonnance fédérale qui dit exactement le contraire de ce qu'on nous dit. Et puis on n'a jamais vu le fin mot de l'histoire, savoir qui si c'est le fameux parc lausannois aura un règlement à part dans cette ordonnance ou c'est vraiment l'ordonnance qui fera foi. Et là, on est vraiment dans l'expectative.
Vous l'appelez le parc lausannois, alors que normalement c'est le parc du Jura.
Oui, mais c'est devenu le parc lausannois.
Parce que en fait, ça voilà. Serait la commune de Lausanne qui aurait tous les terrains de cette zone.
Après, si vraiment ces règlements auraient été possibles et que ces dérogations auraient déjà été faites au tout début, dans les premiers projets de parc, peut-être qu'il aurait pu être fait autrement. Mais voilà, ça frotte pas mal même.
Pas mal, ouais, quand même.
Mais tant que ça frotte, et puis ça veut dire qu'on se cause. On sait que beaucoup de choses nous remontent depuis Lausanne et nous arrivent dessus, et puis là ça faisait un truc de plus. Voilà, c'est ça. Après, ben.
Après. Sans lunettes.
Donc c'est peut-être juste une histoire d'interdiction, une histoire de liberté, Natacha Littistorff.
Alors c'est vrai que ça, on le sent bien, cette notion de liberté, elle est sortie de certains acteurs. Et là, alors ça, je comprends qui est ce lien avec justement ces espaces sauvages. Il y a quelque chose de très primaire dans le bon sens du terme. On est tous des animaux hein, à la base. Et ça, c'est alors un argument pour lequel j'ai une grande écoute. Mais c'est aussi de montrer à un moment donné qu'on doit faire une pesée d'intérêt. Et puis là, la liberté, elle est un tout petit peu restreinte, mais pas grand-chose par rapport à actuellement. Actuellement, on a aussi, comme on le voit aujourd'hui dans notre balade, des sentiers qui sont déjà marqués. On se balade à peu près dans 90% des cas sur ces sentiers déjà maintenant. Mais simplement le fait d'énoncer qu'on ne va plus pouvoir aller là où on n'allait déjà pas, dans une pesée des intérêts, même si je comprends bien ce sentiment de restriction de liberté, je pense qu'il vaut la peine.
Le numéro de téléphone de la boîte vocale de Vacarme, 058 236 236 0, pour réagir à ce reportage de Cécile Guérin. Pour conserver une nature libre et sauvage, faut-il multiplier les interdictions ? Est-ce un paradoxe dont il faut s'accommoder pour préserver la biodiversité? 058 236 236 0.
Vacarme, Laurence Di Félix, Véronique Marty, Stéphanie Coudray, Diane Dufaux, Cécile Guérin et Rodolphe Beauchaud.
Demain, nous irons à la chasse au castor.
Son but, c'est d'arrêter le courant.
Et vous, votre but, c'est que l'eau s'écoule.
Exactement. Donc, notre but, c'est pas non plus de chasser le castor, parce que, évidemment, c'est de la biodiversité. Donc, c'est super intéressant qu'une espèce sauvage puisse vivre ici, si proche. Mais c'est aussi de garantir la sécurité des biens et des personnes, c'est sûr.
Bestiale Genève, un reportage à suivre demain dans Vacarme. Je vous souhaite un très bel après-midi. Voici tout de suite Histoire vivante.